Débat.
Passion.
Découverte.
Avant-première.
Les souvenirs.
Diversité.
Plaisir.
Télévision.
La 30e édition du Festival international des programmes audiovisuels à Biarritz.
Rencontre.
Création.
Documentaire.
Partage.
Radio FIPA. 30 ans.
Ça ne suffit pas.
Bonjour, bienvenue au cœur du FIPA pour ce troisième et dernier plateau proposé par les étudiants du BTS audiovisuel de Bayonne-Biarritz. C'est vendredi, nous sommes véritablement au cœur du FIPA, au cœur de cette manifestation. Nous allons à nouveau parler de différents programmes dans des genres très variés. Et nous allons commencer tout de suite en recevant un réalisateur, le co-réalisateur d'un documentaire, ça s'appelle L'épopée des gueules noires. Il était présenté hier, il est en compétition dans la catégorie documentaire. Ce réalisateur, c'est Fabien Bézia. Je précise que c'est aussi un ancien élève du BTS audiovisuel de Bayonne-Biarritz. Et Martine, je vous laisse nous le présenter et parler avec lui de ce documentaire qu'il a co-réalisé.
Fabien, bonsoir. En fait, tu es présent sur ce plateau pour deux raisons. Jean-Luc m'a piqué mon introduction. C'est-à-dire que la première raison, c'était que tu as réalisé un documentaire en compétition qui s'appelle L'épopée des gueules noires. Et la deuxième raison, c'est que tu viens ici, comme de nombreuses personnes que nous invitons sur ce plateau, parce que tu as suivi la formation en montage. Voilà. En fait, je souhaiterais surtout t'interroger sur ton travail, mais en cherchant à préciser le contexte dans lequel tu le fais. Et du coup, on va quand même commencer par ton trajet. Est-ce que tu pourrais parler, retracer rapidement ton parcours depuis ta sortie du BTS ?
Merci de m'accueillir. Et effectivement, ça fait deux bonnes raisons pour être avec vous ce soir. J'ai fait le BTS à Bayonne il y a 20 ans, je pense maintenant, ça fait à peu près ça, je crois, 97, 98, ça fait 20 ans. J'étais en montage, donc j'ai eu une formation de montage. Et j'ai très rapidement, après le BTS, en fait, travaillé dans différentes sociétés de production et j'ai très vite fait beaucoup de montage. Donc pendant une quinzaine d'années, j'étais chef monteur sur des documentaires, sur des longs métrages documentaires. J'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de films. Ça s'est précisé assez rapidement, en fait. J'ai travaillé beaucoup sur des films d'histoire et des films de société. Donc ça a été naturellement, en fait, ma voie, on va dire, c'est comme ça. Après, j'ai eu plusieurs tentatives de réalisation quand... Et Martine, tu connais bien, puisqu'on est, toi et moi, et d'autres personnes, en fait, membres d'artistes et associés, donc on a réalisé des films. Et donc la réalisation est venue aussi à ce moment-là. Et petit à petit, en fait, de monteur à réalisateur, en fait, voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Voilà.
Je voulais te demander, quel est le, parmi les films que tu as montés, quel est le film dont tu es le plus fier, en fait ?
Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a deux dont je suis très fier. C'est les deux films qu'on a fait avec Pascal sur Raymond Aubrac, qui, je pense, sont vraiment deux films d'histoire comme on a peu l'occasion de voir à la télévision, c'est-à-dire avec un travail au long cours et puis une vraie, affinité humaine, politique et historique, voilà. Donc c'est vraiment deux films dont je suis fier. Et puis il y a un film que j'ai réalisé que j'aime, moi je trouve qui est très intéressant, c'est le premier film que j'ai fait sur les femmes en guerre, le film sur 14-18, en fait, voilà.
Alors tu as dit toi-même que tu étais passé à la réalisation. Enfin, comment ça se passe, le passage à la réalisation ? Parce que en fait tu, ouais, vas-y.
Alors comment ça se passe ? C'est beaucoup de d'accompagnement et de circonstances, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé de mon côté et avec artistes associés, il y a des choses qui se sont faites en réalisation, et après de façon plus institutionnelle, c'est-à-dire institutionnelle au sens pas d'institution de film, mais au sens où une boîte de production et un diffuseur fait confiance, en fait, c'est avec Pascal quand on a fait Raymond Aubrac. C'est-à-dire que même si j'avais fait avant... des petits films comme ça en réalisation, c'est là en fait où le compagnonnage, en fait, qu'on a fait sur Raymond Aubrac a fait qu'il y a eu comme ça un passage et que la réalisation s'est faite assez naturellement.
D'accord, voilà. C'est vrai, je pensais pas du tout que tu allais partir dans cette direction, mais c'est
pas grave, c'est bien. C'est la réalité.
Oui, non, mais t'as raison. Alors, n'empêche que maintenant tu es réalisateur, n'empêche, tu ne lâches pas le montage. Alors pourquoi tu ne lâches pas le montage ?
Alors, je ne lâche pas le montage parce que je pense que le montage, c'est l'endroit... c'est l'endroit de la vie, en fait, le montage. Voilà, c'est l'endroit où, où les choses renaissent, c'est l'endroit où... on a aussi une forme de pouvoir. Alors, je prends le pouvoir en termes de... non pas d'autorité, mais en termes de pouvoir, justement, essayer d'arriver à mener à bien son projet. C'est l'endroit du battement, c'est l'endroit du rythme, c'est l'endroit du compagnonnage, en fait, des voix, des sons et des ambitions, on va dire, politiques, parce qu'en fait, le montage, c'est là où on fait naître... des associations qui sont des associations qui permettent en fait de dire des choses. Voilà. L'endroit, le montage en tout cas en documentaire, c'est je pense un moment central en fait du travail. Voilà. Et c'est pour ça que je ne lâche pas, parce que c'est déjà assez difficile en fait pas de lutter, parce que ça serait un mot un peu léger par rapport en fait aux personnes qui luttent vraiment dans leur vie, mais c'est l'endroit en fait où moi je peux garder en tout cas l'intégrité et la dignité du travail, voilà. C'est cet endroit-là, le montage. Donc c'est important.
Venons-en maintenant au film sur l'histoire des mineurs. Il s'appelle L'épopée des gueules noires, en tout cas la première partie, parce qu'en fait, il sera diffusé mardi sur France 2 avec sa deuxième partie.
Ouais, il y a un deuxième film qui s'appelle Une vie après la mine.
D'accord. Alors, L'épopée des gueules noires, qui a choisi le film, le titre ?
Alors là, tu commences déjà très, très fort, c'est-à-dire que L'épopée des gueules noires, c'est la chaîne en fait qui choisit ce titre. C'est-à-dire que on est dans une situation aujourd'hui qui est assez complexe, mais qui est très, très, je pense, très significative de la situation culturelle, politique, en fait, de la télévision. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut qu'on fasse le, je vais dire un mot un peu dur, mais le jeu du grand récit national, en fait. C'est-à-dire que les chaînes de télévision aujourd'hui s'engagent quand ils ont l'impression, en fait, d'avoir des grandes fresques historiques. Il faut qu'on soit dans le storytelling absolument. Il faut qu'on soit dans une espèce de compagnonnage du spectateur en le caressant dans le bon sens du poil, en fait, on va dire. Et donc, L'épopée des gueules noires, alors, bon, je me ferai engueuler si mais les diffuseurs entendaient ça, mais c'est pas grave. C'est une façon en fait de dire aux spectateurs, attention, effet de loupe, vous allez avoir une grande fresque historique. Voilà. C'est finalement l'érotisme du titre. Quoi, voilà. Et donc je pense que ce n'est pas le titre le plus opportun, mais c'est le titre du film.
Enfin, même, je dois dire que même pour moi, il est assez répulsif en fait. Voilà, il est grandiloquent, il est... Bon. Alors, on oublie le titre. En fait, il s'agit de quoi et pourquoi tu as eu envie, pourquoi tu as désiré faire ce film ? Parce que c'est un... Enfin, si je me rappelle bien, il me semble que c'était quelque chose d'important pour toi.
Alors, c'est un projet, ça fait pas mal d'années maintenant qu'il a été mis en travail. Pourquoi j'ai eu envie ? Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le film historique aujourd'hui, c'est... un film en fait qui prend une grande figure de l'histoire française, qui de façon assez autoritaire nous donne une vision en fait de l'histoire, comme si l'histoire était faite que des seuls grands hommes en fait. Et moi ça me paraît très important. Il y a un sondage qui est passé là, dans Le Monde il y a 7 semaines, qui disait que le monde ouvrier en fait représentait 3%.
Le quoi ?
Le monde ouvrier à la télévision, c'était 3%.
Des images, de
la représentation. Donc ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Et donc,
pardon, je te coupe. Si je ne m'abuse, au niveau de la proportion de population active, c'est quasiment un quart.
Ben, complètement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, de toute façon, on accepte que le monde ouvrier est terminé, que c'est un schéma industriel qui révolue, qu'on est passé dans une nouvelle ère industrielle et qu'on n'aura plus besoin d'ouvriers, alors que c'est absolument faux. Et donc, pour moi, c'est presque, je pense, une nécessité, en fait, de travailler sur le monde ouvrier. Voilà. Et donc, quand j'ai travaillé sur ce film-là, Il y avait comme une évidence de travailler sur le monde minier, parce que le monde minier, dans l'histoire, en fait, représentait à un certain moment le poumon en fait du prolétariat français. Donc voilà, c'était important, et c'était important aussi de voir comment en fait il y a eu un traitement à la fois du monde capitaliste, des luttes sociales, et puis la destruction en fait aussi des luttes sociales. C'est-à-dire d'aller d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, et puis de voir quelles sont les résonances aujourd'hui. Voilà, ça c'était important.
Alors, là aussi, c'est chouette les entretiens, parce qu'en fait, ça ne va jamais là où on voulait. Mmh. C'est ça qui est super. En fait, je pensais que tu allais vraiment...
Enfin, me disant que tu allais parler de la mine, ce que tu as fait, mais... Je voulais évoquer une remarque que je me suis faite en regardant ton film hier soir. Et... c'est qu'il y a un lien entre ce sujet qui te tenait à cœur et sur lequel tu as travaillé de façon complètement dingue ces derniers mois, et ta manière d'envisager le montage. C'est-à-dire que ça fait longtemps que viennent dans tes films des images de mineurs, que parfois même tu parles de toi comme ça, et comme un mineur. Et oui, il y a quelque chose de ça, de cette espèce de travail acharné, invisible, souffrant, tu vois, du type qui est là et qui tape tout le temps. Et j'avais envie de le dire là, parce que c'est une manière de... Si toi, tu fais un film qui reconnaît l'importance constructive des mineurs dans notre société, voilà, c'est une manière de te dire cet imaginaire... qui est ta façon de penser le montage, c'est important de te la renvoyer et de t'en remercier.
Ben, merci. Est-ce que tu veux que je commente ça?
Vas-y, parce que je peux. Après, je continue, mais oui.
Mais oui, parce que c'est là, on revient à la question de pourquoi je continue à monter mes films. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est très très important en fait dans l'utilisation d'une image d'archive. En fait, c'est essayer de trouver le temps présent, en fait, dans une image d'archive. Le temps présent dans le sens où, moi, je n'essaie de travailler sur des films qui nous concernent aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire que les films ne sont pas des films musées. Il faut réactiver le présent, en fait, de ces images. Et réactiver le présent, c'est pas être dans la muséographie de l'image, c'est de voir à quel moment cette image, en fait, nous concerne aujourd'hui. Et je crois que voir un soulèvement populaire en fait en 1910 et que le geste qui est commencé en 1910 se termine en 2004 par exemple, c'est là en fait où il y a une puissance politique. C'est-à-dire il y a une puissance politique quand on est en reconnaissance en fait de ce qui nous a constitué. Et les images nous permettent ça. Les images sont des passeurs de temps. Et le plus difficile au montage en fait, c'est justement d'arriver à reconvoquer des temporalités. Et ces temporalités il y a une phrase très belle de Deleuze qui dit que les images ne sont pas irréductibles au présent, en fait. C'est-à-dire elles sont plurielles, elles sont faites de plusieurs temps. Et le travail que j'essaie de faire, c'est justement d'essayer de reconvoquer ces temps. Alors c'est peut-être un peu théorique, mais c'est totalement physique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit physique.
Mais c'est bien, parce que tout de suite tu es parti sur les archives alors que je t'en avais pas parlé. Mmh. Et justement, j'étais en train de me dire que j'avais oublié une image. C'est-à-dire, quand je dis que tu te vois en tant que monteur, tu te vois comme un mineur, l'idée suivante, c'était clairement ce qui t'intéresse dans les films. On le sent quand on voit le film, et ici peut-être encore plus que dans ceux d'avant, parce que forcément... Il y a un plaisir chez toi à utiliser la matière des archives, et tu as raison de dire physique parce que c'est très physique, et de creuser, quoi. C'est-à-dire tu vas creuser dans les images, tu vas creuser dans la manière dont tu vas placer un plan par rapport à un autre, faire revenir certaines images, leur donner une temporalité. Enfin voilà, t'es vraiment Tu tapes dans l'image jusqu'à, de fait...
Moi, je considère mon travail comme un travail d'artisanat, pas au sens réactionnaire du terme, dans le sens où ça serait juste, en fait, manipuler des choses, d'artisanat, au sens où il y a la nécessité de pétrir et de pétrir les choses pour que pour qu'elles arrivent en fait à la forme juste. Alors la forme juste, c'est très subjectif. La forme juste, pour moi, c'est de voir que, par exemple, un des mineurs que j'ai interviewé aujourd'hui, en 2016, en fait, est totalement constitué en fait, de Zola, par exemple, de Germinal. Et qu'il n'y a pas de décalage entre son visage et sa parole aujourd'hui, et entre le visage et la parole, en fait, pas la parole parce qu'on n'a pas la réception, mais d'un texte de Zola de l'époque. Et alors, on pourrait dire, mais pourquoi aujourd'hui être dans la nostalgie de Zola ? Moi, je ne suis absolument pas dans la nostalgie, je suis dans la réactivation de Germinal. C'est absolument pas le propos de être dans le romantisme en fait de Zola. C'est pas le propos.
Et à propos de ce que tu disais sur le fait qu'une image est constituée de plusieurs temps, je me demandais un peu pourquoi je voulais parler des drones à ce moment, mais là c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ton film, ça commence au générique par des images vues par des drones,
des zones minières, quelles qu'elles soient, dans le Nord, dans le Tarn, ouais. Voilà.
Je pense que tu as essayé d'éviter d'en avoir trop dans ton film, mais clairement, ces images de drones, je voulais te demander qui avait décidé qu'elles étaient là. Tu m'as déjà répondu hier, en fait. Mmh. Et c'est-à-dire, c'est pas toi. Mmh. Et clairement, ces images de drones, elles sont pauvres parce qu'elles sont un seul temps. Mmh. Elles disent, on est aujourd'hui et on est juste un regard réduit qui est la mode aujourd'hui. Il faut avoir des images de drones pour que le film ait un air... Une espèce d'élégance contemporaine. Et elles ne veulent rien dire. Enfin, on est un certain nombre dans la salle à avoir eu peur, là. Quand on a vu les images de drones, on s'est dit « Wow !» Et ça, heureusement, c'est vite fait.
Oui, c'est pas... Effectivement, j'ai... C'est compliqué, en fait, d'être dans la double articulation, c'est-à-dire à la fois être critique de son travail et en même temps de savoir pourquoi, en fait, on fait cette chose-là. C'est, quand je dis compliqué, c'est pas que je n'ai pas choisi ou je n'ai pas voulu. C'est qu'il arrive un moment où il faut voir la réalité aussi de ce qui passe à la télévision aujourd'hui. Et c'est quand même critique en fait ce qui passe à la télévision. Et donc on a des figures un peu obligatoires, c'est-à-dire qu'il y a une forme de consensus qui est nécessaire à la télévision. Et moi je fais quoi, j'accepte en fait. Et même, je crois que c'est une de mes motivations, d'aller sur ce terrain-là, parce que je pense que ce terrain-là, il faut l'occuper, totalement. Donc, je sais que la concession que je fais, par exemple, à la distanciation humaine avec le drone, qui va d'un seul coup jouer son rôle, c'est-à-dire un rôle spectaculaire, va me permettre, à un moment donné, de resserrer un visage derrière. C'est-à-dire que c'est aussi le décalage des deux qui fait que ce qui, pour moi, était très, très important, en fait, prend une puissance supplémentaire. Donc, de quelque chose qui est une contrainte, j'essaie dans le film d'en faire pas un gain, parce que effectivement, moi si je pouvais me passer les drones, je le ferais, c'est pas le problème. Mais en tout cas, d'arriver à comment dire à donner en fait le programme et à lui donner sa spectacularité, tout en n'évacuant pas l'essentiel en fait, voilà.
Ouais.
Donc.
Ouais.
Donc c'est un peu ça, là. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a des choses, la musique très puissante au générique de début, les drones. Oui, voilà, il y a des choses qui sont aujourd'hui nécessaires pour un film de première partie de soirée.
Oui, justement, que tu sois mineur, ça correspond aussi au fait que tu es dans une lutte acharnée pour aller le plus loin possible, alors même que tu es cerné de contraintes, quoi. Voilà. Mais en gros, c'est exactement, enfin, en développant ce que tu disais sur les drones face à un visage en gros plan, tu disais que tu jouais
de la distance entre les deux. Ben, c'est un exemple parfait de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire comment il y a une contrainte. Tu dis bon, d'accord, les drones, bon, ok, France 2, première partie de soirée, je vais mettre des drones, très bien. Mais ensuite, avec le montage, je vais paf. Et je vais aller là où le film est nécessaire, quoi. En fait, on approche de la fin là, et je voulais t'interroger sur justement la nécessité d'un film comme celui-ci aujourd'hui.
Ouais, la nécessité, elle est pour moi évidente, c'est-à-dire que Je sais pas, je suis tombé par exemple.
Il n'y a pas longtemps sur un documentaire sur Marine Le Pen, et que je trouvais absolument dégueulasse, je peux le dire. Ça, je trouve ça pas possible. Ou même une série qui est passée sur le monde ouvrier, qui est passée pas très longtemps sur la télé, que je trouvais aussi dégueulasse, parce que le film en fait voulait raconter le monde ouvrier en évacuant totalement la question des luttes sociales. C'est-à-dire que le film ne racontait pas les luttes sociales. Donc on avait des gens qui étaient vraiment pétris dans leur impuissance. C'est-à-dire qu'ils étaient, oui, le monde ouvrier est terminé, mais à aucun moment on leur redonnait la possibilité d'avoir une puissance. Donc on leur enlevait leur dignité, à mon sens. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui, dans tous ces territoires et dans tous ces endroits, de pouvoir être en reconnaissance en fait, d'une puissance. D'une puissance, en tout cas, d'action. Voilà. Et pour moi, le film est important parce qu'en fait, il donne ça. Voilà. Il donne à un certain moment
aux personnes qui sont filmées ou aux anciens mineurs, aux ouvriers qui vont voir le film, de se dire « Ah ben oui, on a appartenu à cette histoire-là et c'était pas juste en fait... »
Un moment d'échec, c'était un moment de puissance.
Et moi, il y a un double truc, et ce pourquoi j'ai fait le film, c'est que je suis très en colère à l'idée de dire aujourd'hui « Les ouvriers, vous avez été assez idiots pour être communistes à l'époque, vous êtes assez cons aujourd'hui pour voter Front National, tout en évacuant ce qui fait que les gens sont toujours
acculés à ce type de situation. » Et là, c'est pas possible, en fait, pour moi.
Ça, je trouve ça inacceptable. Et donc, c'est un des enjeux aussi du travail. C'est-à-dire redonner, en fait...
C'est prétentieux, peut-être, de dire qu'un film peut redonner quelque chose.
Mais en tout cas, j'essaie de contribuer à l'idée que tous ces gens se sont...
Magnifiquement battus
et que cette lutte, en fait, est actuelle. Elle n'est pas passée. Voilà.
Alors moi, j'ajouterais deux trucs, deux idées. C'est que hier, après le film, tu disais, c'est difficile mais important de faire un film sur une collectivité.
Oui, c'est vrai.
On est dans une situation dans laquelle la majorité des films qui se font sur des individus. Mmh. Voilà. Bon. Et l'autre chose, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, là, dans le couloir, en me disant, en fait, c'est extrêmement difficile d'essayer de mettre de la réalité dans un film. Et là aussi, on est dans une société de fiction où sans cesse, on est perdu. Et tenter de faire qu'un film nous donne un petit bout de réalité, je t'en remercie. Voilà. Mmh. Puis je voulais, je vais terminer avec plein de merci. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Moi, tu le fais toujours, mais voilà. D'avoir accepté de nous répondre. Donc. J'espère que ton film prochain, que pour ton film prochain, tu auras plus de liberté encore que tu en as eu pour aller plus loin. Et je rappelle à nos auditeurs que l'épopée des Gueules Noires passe demain matin à 9h30 dans une grande salle à sa mesure, c'est-à-dire à l'Atalaya, à la gare du Midi.
À 9h30,
voilà.
Oui.
Voilà. Merci Fabien.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Martine. Et merci Fabien. Bonne continuation dans cet engagement de mineur des images pour tous tes prochains programmes.
Et comme l'a dit Martine aussi, pour ceux qui ne seraient pas au FIBA, je vous rappelle que le programme sera en diffusion mardi soir prochain à 20h55 sur France 2.